Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI. Il est maintenant 15h, temps universel, 16h, ici à Paris.
Charlotte Hydrac.
Avec à la une le front uni d'Israël et des États-Unis affiché lors de la visite du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio en Israël. Le premier ministre israélien, lui, a salué la vision audacieuse, je cite, de Donald Trump pour la bande de Gaza. Attention à une balkanisation de la RDC, mise en garde de l'Union africaine après l'entrée de combattants du M23 soutenus par des militaires rwandais dans la ville de Bukavu. Un hommage sous surveillance à Alexei Navalny autour de sa tombe à Moscou, l'opposant russe décédé en détention il y a tout juste un an. Et puis à suivre aussi le cinéma et le retour de Bridget Jones, quatrième volet des aventures de la célèbre célibataire britannique, toujours blonde, toujours maladroite, mais plus connectée et féministe. Israël et les États-Unis sur la même longueur d'onde, donc, selon Benjamin Netanyahou, après une rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, à Jérusalem. L'État hébreu partage une stratégie commune avec Donald Trump, dit-il, sur l'avenir de la bande de Gaza. Sachant qu'on le rappelle, le président américain avait proposé de déplacer les habitants du territoire palestinien. Front commun, donc, contre le Hamas, contre le Hezbollah et contre l'Iran. C'est la principale source d'instabilité dans la région, selon Marco Rubio.
Le point commun de tous ces défis est l'Iran. C'est la plus grande source d'instabilité dans la région. Derrière chaque groupe terroriste, derrière chaque acte de violence, derrière chaque activité déstabilisatrice, derrière tout ce qui menace la paix et la stabilité pour les millions de personnes qui vivent dans cette région, il y a l'Iran. Et par l'Iran, j'entends les ayatollahs. Par l'Iran, j'entends son régime, un régime que, soit dit en passant, son peuple ne soutient pas. Le peuple iranien est victime de ce régime. Je pense donc qu'il est important de souligner constamment que lorsque nous parlons du Hamas ou du Hezbollah ou des violences en Cisjordanie ou que nous parlons de la déstabilisation en Syrie ou encore des milices en Irak, le point commun, c'est l'Iran. Et cette question doit être abordée. Il ne peut jamais y avoir un Iran nucléaire. Un Iran nucléaire qui pourrait alors se tenir à l'écart des pressions et des actes. Cela ne peut jamais arriver. Le président a également été clair à ce sujet.
Le chef de la diplomatie américaine à Jérusalem, lors de cette rencontre tout à l'heure, Benjamin Netanyahou a aussi affirmé qu'Israël ferait ce qu'il a à faire pour le respect du cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban, trêve toujours très fragile, à 48 heures du retrait en principe de l'armée israélienne du sud du pays. Selon l'agence de presse officielle libanaise, une femme a été tuée ce dimanche par des tirs israéliens dans un village frontalier. L'armée libanaise appelle les habitants des régions du sud à ne pas rentrer, ne pas se déplacer dans les zones où l'armée n'est pas encore déployée. Malgré la peur, malgré les risques de représailles judiciaires, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui autour de la tombe d'Alexei Navalny à Moscou, l'opposant, ennemi public numéro 1 de Vladimir Poutine, décédé il y a tout juste un an en détention. Reportage à Nissel Jabri.
9h, les cloches de l'église toute proche sonnent, les portes du cimetière Borisovskoïe dans l'est de Moscou vont s'ouvrir, les voitures aux plaques diplomatiques des ambassadeurs européens sont là, les premiers moscovites souhaitant rendre hommage à Alexei Navalny aussi. Qui est en train de nous photographier? Demande une femme qui finit par décliner l'interview. Très tôt ce matin, la présence policière en civil jusque sur la tombe de l'opposant se faisait pesante. Certains venus rendre hommage sont d'ailleurs masqués, d'autres cachent jusqu'au dernier moment leurs fleurs dans leur sac ou fuient à la vue d'un micro.
Je vis en Russie et j'ai peur. Nous avons tous peur de Vladimir Poutine et de son régime.
Mais pas tous.
Je ne crois pas prendre un risque. Quel crime on commettrait en allant juste déposer des fleurs au cimetière? La police est là? Formidable, on va lui sourire.
C'est le week-end le plus glacial de l'hiver moscovite et certains Certains sont venus seuls, d'autres en groupe.
On est venu à la fois chercher du réconfort et envoyer un message, se rappeler de lui aussi. C'est quelqu'un qui nous est proche, comme un parent. Pour moi, il est mort à cause de nous, parce que nous n'avons pas su le protéger, et je me sens coupable.
Moi, je voulais montrer que son travail est toujours actuel et que tout ce qu'il a fait n'est pas oublié, qu'il y a suffisamment de monde parmi ceux qui sont encore vivants pour porter ce qu'il a fait.
Oui, Alexei n'est plus avec nous, mais son travail, lui, vit toujours et nous devons le continuer.
Un an après sa mort, la Russie garde le nom d'Alexei Navalny inscrit au registre des personnalités terroristes et extrémistes. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Et sa veuve en exil, Yulia Navalnaya, a appelé ses partisans à poursuivre la lutte pour une Russie, je cite, libre et pacifique. C'est confirmé, une réunion des principaux pays européens sera organisée demain, lundi, à Paris, pour des discussions sur l'Ukraine et sur la sécurité européenne autour du président Macron, alors que les États-Unis ont annoncé des négociations directes avec la Russie pour mettre fin au conflit ukrainien. Kiev et les Européens ont critiqué une initiative dans leur dos. Par ailleurs, selon le président Zelensky, plus de 100 000 personnes sont actuellement privées de chauffage à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, et cela après une frappe russe contre une centrale électrique. La mise en garde de l'Union africaine sur la situation en RDC, elle dit craindre une balkanisation du pays. Alors que le M23, soutenu par l'armée rwandaise, a progressé dans l'est du pays, ils sont entrés dans la ville de Bukavu, capitale régionale du Sud-Kivu. Alors après des scènes de pillage signalées hier, la situation semblait un peu plus calme ce matin. Et le M23 cherche à gagner la confiance des populations. C'est ce que raconte cet habitant qui s'exprime de manière anonyme pour des raisons de sécurité.
Les amis du M23, ils sont arrivés le matin. Ils ont parlé avec quelques gens au niveau de la place de l'indépendance en disant d'aller se mettre à la maison, à l'abri d'abord, le temps qu'ils ratissent la ville. Parce que hier, nous étions sous le feu de nos jeunes enfants qui étaient au niveau du camp Sayo. Les enfants et les militaires, quand ils quittaient la ville, ils ont pillé sauvagement la ville, vraiment. Présentement, la population derrière eux, ils ne font que regarder seulement et applaudir, mais je ne sais pas ce qui se trouve dans le cœur. Le cœur, on pleure quand même, on pleure. En fait, moi, je pense que tout le monde voulait qu'ils voient le phare de se remporter la victoire. Et tout le monde pensait qu'avec la négociation ou la diplomatie, ça peut aller même. Dommage, ça n'a pas marché. On pleure de voir que les Rwandais prennent la ville, hein.
Le désarroi de cet habitant de Bukavu, témoignage recueilli par Amira Swilem, dossier complet dans Afrique Soir. Tout à l'heure, ce sera à 18h30, temps universel. La politique en France vers un congrès du Parti Socialiste au mois de juin, annonce de son patron Olivier Faure, qui sera lui-même candidat à sa succession, avec en jeu notamment pour le parti politique la ligne vis-à-vis du parti de la France Insoumise. Et puis Bridget Jones, le retour, la célèbre célibataire britannique qu'on avait suivi au cinéma au début des années 2000 avec son journal intime et ses mésaventures amoureuses. Elle est revenue sur grand écran avec un quatrième film, toujours incarné par Renée Zellweger. Elle est désormais quinquagénaire et élève seule ses deux enfants, Sophie Tarlotin.
Madame Darcy.
Monsieur Walliker.
Pourquoi ta grand-mère sera en pyjama ?
Elle est toujours aussi blonde, maladroite et affublée de son éternel pyjama. Mais Bridget Jones a pris de l'âge et les drames de la vie ne l'ont pas épargnée. Si la quinquagénaire se retrouve mère célibataire, c'est parce qu'elle n'arrive pas à surmonter le deuil de la mort de son mari, Mark Darcy, alias Colin Firth. La londonienne va se reprendre en main, retrouver son journal intime et connaître de nouvelles mésaventures amoureuses du signe des temps aux applis de rencontre.
Ça fait 4 ans maintenant.
T'es devenue une bonne sœur très très coquine.
Je t'ai inscrite sur Tinder.
C'est quoi Tinder ?
Retrouver Bridget Jones et avec elle ses amis, et notamment le playboy vieillissant Daniel Cleaver, incarné par Hugh Grant, s'est renoué avec une copine perdue de vue. Ce quatrième épisode arrive avec humour à illustrer la carte du tendre 2.0 post-MeToo, où les jeunes hommes se préoccupent désormais d'obtenir le consentement des femmes. drame. Alternant rire et larmes, ce film relève le défi de continuer à plaire à un public féminin soucieux d'inclusivité, tout en conservant l'ADN de la comédie romantique.
Bridget Jones, folle de lui, quinquagénaire, mais toujours pas assagie sur les écrans dans le monde entier. Et à la radio sur RFI, on vous retrouve maintenant, Yasmine Chouaki.